Tutophonics.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Tutophonics. Les créateurs de saga MP3 se donnent du mal pour immerger les auditeurs dans l'histoire et l'action en cours. Il faut donner l'impression que les personnages évoluent dans des endroits différents que celui où la scène a été enregistrée. Pour ça, ils reconstituent les propriétés acoustiques du lieu de chacune de leurs scènes pour qu'à l'écoute, les auditeurs identifient naturellement le type d'endroit dont il s'agit. La solution la plus utilisée est la réverbération.
Le son est une onde mécanique. Il est donc soumis à certaines lois physiques liées aux propriétés des matériaux. Il va rebondir sur certains d'entre eux et sera absorbé par d'autres. Selon l'énergie et la direction d'un son émis, la qualité et la configuration des matériaux des alentours aura un rôle plus ou moins important à jouer dans la modification de son aspect. Lorsqu'on est dehors, les espaces sont généralement bien plus élevés que lorsqu'on est entre quatre murs, sans oublier le sol et le plafond, qui envoient une certaine quantité de son. Un auditeur entendra donc la source directement, plus plusieurs fois le même son qui a rebondi sur les murs avec un certain retard, les échos, plus encore une multitude de petits échos désordonnés et diffus dus à la diversité et au nombre des objets et matériaux présents dans la pièce. Ces phénomènes sont d'autant plus importants que la pièce est grande. Jusqu'à ce qu'on atteigne des tailles telles que le son émis n'a plus assez d'énergie pour parcourir la distance, comme quand on est dehors.
C'est vrai que lorsque l'on est dans une salle de conférence ou dans une cathédrale, le son est très différent de celui qu'on a dans une chambre ou même dehors. Pourtant, quand on est dehors, il peut quand même arriver qu'on ait des phénomènes d'écho. À la montagne, par exemple, ou dans les grands canyons américains. Pourtant, les espaces sont grands.
Il y a un autre phénomène qu'il faut dans certains cas ne surtout pas négliger, c'est la résonance. Normalement, en se propageant, un son perd de l'énergie. C'est pour ça qu'on perçoit moins bien les sources éloignées. La plupart des objets qu'il rencontre vont lui faire perdre également de l'énergie. Mais pas tous. Certains objets, infrastructures ou paysages naturels ont la particularité de lui en apporter en se mettant à vibrer par ce que l'on appelle la sympathie. Ils peuvent aussi se comporter comme une caisse de résonance du fait de leur forme creuse, comme sur les instruments de musique. C'est ainsi qu'un son peut être naturellement entretenu, voire même amplifié, et donc parcourir bien plus de distance.
La réverbération a toujours été une composante essentielle en enregistrement musical. Le son est moins convaincant, moins authentique sans réverbération. Pour les tout premiers enregistrements, on plaçait les micros stratégiquement pour avoir plus ou moins d'ambiance de salle et de réverb. Ensuite, on a commencé à la créer artificiellement avec les fameuses chambres d'écho, ces énormes boîtes dans lesquelles on plaçait à chaque extrémité un haut-parleur et un micro. Puis, on a trouvé d'autres moyens moins volumineux comme la plaque de métal ou les ressorts qu'on fait vibrer. Enfin, nous sommes entrés dans l'ère du numérique.
L'arrivée des réverbes numériques a été vécue comme une révolution par les ingénieurs du son de l'époque. Il faut dire qu'avant, on obtenait de la réverbe artificielle qu'avec des procédés électromécaniques qu'on jugerait aujourd'hui très laborieux. Non seulement le procédé était plus simple, mais il y avait aussi bien plus de paramètres réglables, ce qui permettait pour une fois de faire des réverbes très différentes selon les besoins.
Ces réverbes numériques n'étaient cependant pas à la portée de tout le monde, et seuls les studios prestigieux pouvaient à l'époque se les offrir. Les avancées technologiques ne s'étant pas arrêtées là, on trouve maintenant les réverbes numériques sous la forme de logiciels et plusieurs de ces logiciels sont aujourd'hui gratuits.
La technique.
Sans aller jusqu'à l'étude de l'algorithme exploité par un logiciel d'effet, il est important de savoir dans les grandes lignes la façon dont fonctionne un effet. Ça permet de savoir comment le paramétrer pour obtenir le résultat qu'on veut. C'est particulièrement vrai pour les effets de réverbération.
Les effets de réverbération sont certainement les effets qui demandent le plus de paramètres pour les réglages. Sans entrer dans les détails, les logiciels d'effets de réverbération tentent de reproduire ce qui se passe dans la réalité. Un son est émis dans un environnement réverbérant. Les premières réflexions donnent quasiment le même résultat qu'un écho.
Maître Corbeau sur son arbre perché.
On l'appelle le plus souvent pré-délai. On trouve aussi l'anglais Earliest Reflections. Il se règle en millisecondes. Comme ce paramètre dépend essentiellement de la taille de la pièce, la distance entre les murs, le pré-délai est parfois directement lié à ce paramètre qu'on trouve sous le nom de distance room size, dont l'unité, quand il y en a une, est plus ou moins logique.
Tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée.
Après les premières réflexions, viennent évidemment les autres réflexions, celles qui apportent vraiment le côté réverbéré du son.
Maître Corbeau sur son arbre perché.
Le room size va beaucoup jouer sur l'aspect de la réverb. C'est ce qui va donner l'impression que vous parlez plutôt dans une bouteille en verre.
Maître Corbeau sur son arbre perché.
Ou une salle de conférence.
Tenait dans son bec un fromage.
Mais le réglage de densité aussi. Une réverb n'est finalement qu'une multitude d'échos mélangés et le réglage de densité va déterminer le nombre de ces échos. Vous trouverez aussi le réglage du temps de réverbération, de sorte à obtenir une réverb qui dure plus ou moins longtemps.
Tenait dans son bec un fromage.
Ça n'est pas fini, car après avoir réglé des paramètres qui rappellent ceux des delays et échos, vous allez devoir régler des paramètres qui, eux, rappelleront plutôt ceux des filtres et égaliseurs.
Dans la réalité, les réflexions sont rarement complètes. Il y a toujours une proportion d'harmoniques qui sont absorbées par les matières réfléchissantes, et d'autres sont amplifiées par des matières ou des infrastructures résonantes. C'est pour ça que vous avez très souvent des filtres pour les deux types de réflexions. Ces filtres fonctionnent grosso modo comme les égaliseurs paramétriques.
Tenez dans son bec un fromage.
On trouve le paramètre fréquence de coupure, le paramètre coefficient ou pente de coupure Q, le paramètre gain pour plus ou moins atténuer ou amplifier. Sinon, on y trouve aussi des filtres qui ne proposent qu'un paramètre pour atténuer les hautes fréquences. En anglais, high frequency filter.
Tenez dans son bec un fromage.
N'oublions pas que la plupart du temps, comme pour tous les effets de retard, on peut régler le mélange dry et wet.
Que vous êtes jolie, que vous me semblez beau.
Qu'est-ce que c'est compliqué tous ces paramètres? Fort heureusement, il y a les presets. Ces configurations toutes faites prévues par les concepteurs d'effets pour faciliter la tâche des ingénieurs du son et a fortiori ceux des créateurs de saga MP3. Certains de ces presets sont parfois même repris de génération en génération de conception, comme les reverbs basiques.
Vous trouverez souvent les reverbs hall, plate, chamber, room et leurs variantes dans les presets. Comme on a finalement très peu de mots pour décrire vraiment une reverb, ces appellations peuvent aussi servir à savoir de quel type de réglage on parle. Voici comment sonnent ces quatre reverbs. Tout d'abord la hall.
Maître Corbeau sur son arbre perché tenait en
ensuite
son bec
la plate.
Maître Renard par l'odeur alléchée.
Voilà maintenant la chamber.
Engage. Bonjour, monsieur du corbeau.
Et enfin, la room.
Que vous êtes joli, que vous me semblez beau.
Pour ceux qui font leur mixage en mode non destructif, il peut être intéressant de placer la reverb sur une piste auxiliaire pour éviter d'avoir à en mettre sur chaque piste. Toutes les pistes envoient une quantité réglable de son dans cette piste auxiliaire, et on a donc une reverb un peu différente pour chaque piste avec une seule entrée d'effet. Pour ceux qui sont en mode destructif, il existe aussi une astuce pour faire un peu comme avec un envoi auxiliaire.
C'est simple. Vous faites un clone de la piste et vous appliquez votre reverb dessus à 100% de son wet. Vous pouvez ensuite régler le volume de cette piste pour avoir plus ou moins de reverb dans votre mix.
Bonjour, monsieur Ducorbeau.
Vous pouvez même mettre d'autres effets dessus si ça vous chante, comme par exemple un égaliseur.
Bonjour, monsieur Ducorbeau.
Conclusion.
Beaucoup ne le pensent pas, mais les effets de réverbération sont sûrement les plus délicats à régler. Le nombre de paramètres et l'incidence qu'ils ont chacun sur le son fait qu'il existe énormément de possibilités pour le résultat final.
L'utilisation de réverb numérique nécessite de la précision et une très bonne qualité d'écoute. Le plus déroutant, c'est qu'une réverb a priori presque inaudible peut déjà être efficace et donner l'effet escompté, même si on a très envie d'en ajouter. Pour plus de précision, une écoute au casque peut très souvent s'avérer incontournable.
Ceux qui utilisent le mieux ces effets dans des fictions sont ceux qui ont observé dans la vie de tous les jours les différents aspects que peuvent avoir des reverbs naturels selon la taille et le contenu de la salle, le type de revêtement au sol, au plafond et au mur, et qui, de ce fait, ont une idée assez précise des réglages à utiliser pour obtenir le rendu escompté. Le prochain Tuto Phonix aura pour sujet le montage. À bientôt.